Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com.
Ok, donc ce matin, on aborde la parole de Dieu comme, littéralement comme sujet. Je pensais parler sur la Bible comme parole de vie. Vraiment, et là, on est à un petit épisode hors sujet, hors série, pardon. J'espère que je ne ferai pas du hors sujet. Hors série. Et donc dernièrement, on a eu la série Résolution, qui nous encourageait vraiment à vivre comme disciples, non seulement pour cette année, mais pour la suite de notre vie. Et plusieurs fois, on a évoqué la Bible. On a parlé de ce que c'est comme élément fondamental pour notre foi. Et je crois que j'avais envie d'insister là-dessus. Et je crois, un peu comme plusieurs personnes ici, j'aime bien comprendre ce que la société pense ou perçoit des sujets qu'on aborde. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il y a quelques années, il y a un sondage qui a été fait en Suisse par rapport à la Bible, plus spécifiquement. Et en fait, en Suisse, 8 personnes sur 10 ont déjà lu la Bible. Honnêtement, ça m'a surpris, je pensais qu'il y aurait un peu moins. Et donc, ça veut dire que 8 personnes sur 10 qu'on croise dans la rue ont déjà lu la Bible. Et dans toute la population suisse, 1 sur 10 a lu la Bible en entier. Impressionnant, 800 000 personnes en Suisse ont lu la Bible en entier. Et parmi les évangéliques, qui représentent environ 3% de la population suisse, on estime que 40% d'entre eux l'ont lu en entier. Et chose intéressante, il y avait aussi cette question, comment est-ce que les Suisses perçoivent la Bible ? Environ 39% des personnes interrogées la considèrent comme un livre historique. Environ 34% comme la parole de Dieu. 28% comme une référence culturelle. Et là, tu te dis, attends, il accumule les pourcents. Non, il y avait plusieurs catégories différentes. Et 18% comme un livre de sagesse. 15% comme un recueil de contes et légendes. Et quand même 5% qui pensent que la Bible est un livre dangereux. OK. On va voir ça aujourd'hui. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que la Bible, elle a encore énormément de valeur aujourd'hui. Voltaire disait il y a 250 ans, un siècle après ma mort, on aura oublié la Bible. Je pense qu'il doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui, vu que c'est encore aujourd'hui le livre le plus lu au monde. Et de loin, Harry Potter arrive en troisième, Le Seigneur des Anneaux en quatrième. Non, vraiment, ça a une importance prépondérante, mais énorme. Aujourd'hui, la Bible a encore énormément de choses à dire, et les gens s'en rendent conscience. Et souvent, on parle de la Bible, mais finalement, qu'est-ce que c'est à part une accumulation de plusieurs pages ? Et je crois que c'était aussi important, du coup, je vais juste expliquer quelques petits aspects qui sont quand même vachement importants sur qu'est-ce que c'est la Bible, vraiment. Donc, premièrement, quand on parle d'un livre, ce n'est pas totalement vrai, parce que c'est plutôt 66 livres qui sont condensés en un seul. Et il y a plein de styles différents, que ce soit poétique, que ce soit des épopées, que ce soit historique, que ce soit des témoignages oculaires directs. Et du coup, tu ne peux pas interpréter les jours de la Genèse comme les jours de Jésus mort et qui est ressuscité. Il y a des choses qui sont interprétées différemment. Et chose intéressante, c'est qu'il y a vraiment une consistance interne. Donc justement, il y a 66 livres, environ 40 auteurs différents, écrits en 3 langues, répartis sur environ 1500 ans. Et pourtant, tous pointent vers l'image d'un Dieu qui a créé l'homme et la femme, qui ont péché, dont Dieu a donné un chemin pour restaurer la relation de toutes choses avec lui, et par sa grâce incarnée dans la mort et la résurrection de Jésus. Donc en fait, ces 66 livres, ces 40 auteurs, ces 1500 ans d'histoire pointent vers la même image de Dieu. En plus de ça, les manuscrits sont plausibles. Il y a certains événements historiques, on prend peut-être une dizaine, voire une centaine de références historiques pour justifier, comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et pour le Nouveau Testament, on estime aujourd'hui qu'il y a 5000 références qui justifient les actes qui sont décrits dans le Nouveau Testament. Et parmi ces 5000, il n'y en a aucune qui a remis en question de manière importante le témoignage et la vie de Jésus. En plus de ça, il y a des prophéties réalisées. Donc, dans tout l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, si vous voulez, la plus ancienne, il y a beaucoup de prophéties qui se sont réalisées à l'interne, mais aussi sur la vie de Jésus. On considère qu'il y a 300 prophéties qui ont été faites sur la vie de Jésus, et toutes se sont réalisées. Donc, il est raisonnable de penser qu'on peut voir la Bible vraiment comme la parole de Dieu et comme référence solide sur laquelle on peut appuyer nos vies. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans une ère où on a tendance à vouloir un peu tout déconstruire, à vouloir tout comprendre, le pourquoi du comment de mon éducation, de la famille, du système politique dans lequel j'évolue, etc. Et on défait toutes ces petites pièces pour comprendre chacune de ces pièces individuellement. Et je pense que, jusqu'à un certain point, c'est intéressant. Mais quand on ne construit rien après avec ça, ça génère juste de l'anxiété et plein de pièces détachées. Et je crois qu'on a besoin de références, de constructions solides qu'on cherche à comprendre, mais qui sont toujours solides. Et la Bible, je crois vraiment qu'elle fait partie de ces repères. Donc aujourd'hui, on va prendre un passage dans le Nouveau Testament, dans la deuxième lettre à Timothée. Donc pour le contexte, le Nouveau Testament, c'est la deuxième partie qui décrit plus la vie de Jésus et l'après, juste après, quelques années. Et Paul, il est dans ce juste après. C'est un peu un disciple tardif de Jésus, si vous voulez. Et il lui-même a eu une révélation incroyable sur qui était Dieu. Et après ça, il dédie toute sa vie à ça. Et il a des disciples, encore si on veut. Donc, les disciples continuent à s'agrandir, à se reproduire. Timothée, c'est un de ses protégés. Et à ce moment-là, Paul, il est en prison à Rome. Et il écrit une lettre à Timothée, son protégé. On va lire le passage ensemble. Donc c'est dans 2 Timothée chapitre 3, versets 10 à 16. Le découpage a voulu qu'après ça soit chapitre 4, versets 1 à 5. Donc c'est tout à la suite. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône ou à Lystre ? Quelle persécution n'ai-je pas supportée ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage, à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toutes les douceurs et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Intense, hein. Je vais boire un petit coup. sais, moi, quand je lis ce passage, je suis là, mais est-ce que j'ai vraiment choisi la bonne religion, tu sais? À aucun moment, ça dit que le christianisme sera facile. Bien au contraire. Mais pourtant, Paul, il persévère et il sait que c'est juste. Et à ce moment-là, il demande à la fin de la lettre de Timothée d'amener de la nourriture, d'amener un manteau, parce que c'est sûrement bientôt l'hiver. Et peut-être qu'il va se faire exécuter. Et ça, c'est difficile à entendre. Et je crois qu'il y a quand même de l'espoir, en fait, là-dedans. Et l'espoir, il le trouve dans la parole de Dieu. Et ici, à la fin, il parle de la parole de Dieu à Timothée. Il faut bien se rendre compte qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore la Bible. C'était l'Ancien Testament. Mais c'était l'Ancien Testament avec les prophéties, les 300 dont on parlait avant, qui se sont réalisées dans la vie et la mort de Jésus. Et c'est ça qui pousse la foi de Paul. Et Paul, il parle aussi d'autres personnes dans cette seconde lettre à Timothée qui ont sûrement des faux enseignements. Et ces faux enseignements, certains théologiens pensent aujourd'hui qu'ils étaient faux parce qu'ils n'étaient pas incarnés dans la vie du quotidien. Ils étaient sur-spiritualisés. Ils ne correspondaient pas à la réalité. Ils étaient juste là pour attirer les foules et séduire d'une certaine manière. Et du coup, il parle aussi de ces fausses doctrines. Et quand il parle de fausses doctrines, c'est justement des doctrines qui ne sont pas incarnées, qui ne sont pas réelles, qui ne correspondent pas au quotidien, qui ne sont pas capables d'être mises en pratique. Et du coup, ce matin, avec vous, j'ai envie d'aborder trois points. On pourrait dire tellement de choses de ce passage. C'est intense, mais il y a tellement de choses à ressortir. Et du coup, ces trois points, ça va être la Bible, premièrement, comme fondation, comme, deuxièmement, comme élément pour guider, et troisièmement, pour nous équilibrer. Ok, premièrement, la Bible comme fondation. Dans le chapitre 3, au verset 15, il dit « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Rien que dans cette phrase, il y a tellement de choses à dire, c'est fou. Mais il faut bien se dire, Timothée, du coup, on comprend qu'il a été élevé dans un contexte qui lui permet de comprendre vraiment la parole et qui la garde dans son cœur. Et je crois que c'est vraiment une fondation pour sa vie. Et je n'utilise pas ce mot pour rien. Je ne sais pas si vous connaissez la parabole des deux maisons. Dans Matthieu 7, versets 24 à 27, il y a Jésus qui parle de cette parabole où il y a deux personnes qui construisent chacune une maison. Il y a une maison qui est construite sur le sable et une sur le roc. Et au bout d'un moment, la tempête arrive et la maison qui est construite sur le sable, elle s'effondre. Et Jésus, il interprète ça, il parle de ça comme étant les personnes qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne la mettent pas en pratique, et ben leur maison s'effondre. Alors que ceux qui ont des bonnes fondations, c'est ceux qui la mettent en pratique. Et dernièrement, j'en parlais avec un ami et il me disait, mais tu sais, les fondations dans le roc, ça prend du temps à creuser. C'est difficile. Ça demande d'aller profondément dans les choses. Et aujourd'hui, on a tellement envie que ça aille vite, on a envie que ça gagne du temps, de ne pas devoir perdre trop d'efforts dans les relations. C'est tellement plus facile de tout faire par soi-même, non? On n'a pas envie que ça coûte trop cher. Et des fois, j'ai l'impression qu'on construit un peu sur le sable. Mais dans la parole de Dieu, des fois, c'est difficile à entrer. Des fois, on a de la peine ou on est intimidé ou on se dit « non, mais c'est pour les intellos ». Moi, j'y crois pas du tout. Je crois que c'est la parole de Dieu qui est mise en pratique. Et en préparant ce message, je réfléchissais à, mais on a besoin d'une illustration pour ça, de cette parole mise en pratique comme fondation. Et j'ai demandé à un ami si je pouvais utiliser l'histoire de son père pour illustrer ça, et il m'a dit oui. Et c'est une histoire assez incroyable, ça se passe en Inde, dans les années 80. C'est l'histoire de Moïse. Et donc cet homme s'appelle vraiment comme ça, il vit encore aujourd'hui. À ma connaissance, on n'a jamais vraiment raconté son histoire. Et donc c'est un homme indien, père de famille. Il avait 5 Bibles. Et chacune de ces Bibles était parfaitement soulignée, intégrée dans son corps, dans sa pensée, dans sa manière de faire. C'était l'homme qui aidait chacun de ses voisins. Aucun n'était chrétien, à part sa famille. Il a reçu comme prophétie que son fils serait prophète dans les nations. Et je vous assure que c'est vrai aujourd'hui. Et vu qu'il a reçu ça, il s'est dit, OK, ben à la place de donner mon sang, je vais vendre mon sang. Comme ça, je peux financer l'école pour qu'il parle anglais. Il mangeait un repas par jour, famille très simple. Et un jour, Moïse, il voit ses enfants se battre avec les voisins. Et il arrive, il va les séparer, il renvoie chaque enfant chez eux. Il faut bien comprendre que pour un enfant hindou de recevoir l'ordre d'un chrétien, ça ne passait pas du tout. Et du coup, dans ce contexte-là, les 7 voisins hindous se sont alliés, ils ont engagé des hommes de main pour aller tabasser Moïse. C'est ce qui est arrivé. Quelques jours plus tard, des hommes ont entouré cet homme, ils l'ont tabassé, lui ont même lancé un gros caillou juste sur un œil et il a perdu la vue. Il a dû aller 3 mois à l'hôpital. Et pendant ces 3 mois, chaque jour, sa famille venait le voir. Et puis, ses fils lui disaient, « Mais tu sais, papa, on peut te venger. Enfin, j'apprends les arts martiaux, etc. On peut s'arranger. » Puis le père, il disait, « Moïse, priez pour eux, bénissez-les. Et j'aimerais que vous leur pardonniez directement. » Et pendant 3 mois, cet homme était à l'hôpital. Et tous les jours, il priait pour ces gens, pour ces familles qui ne savaient pas ce qu'elles avaient fait. Et ça a duré 10 ans. Et au bout de 10 ans, Moïse, il est dans un marché comme ça, et il recroise l'homme qui lui avait lancé la pierre et qui lui avait fait perdre la vue d'un œil. Et il va vers lui et il commence à discuter avec lui, et l'autre, hyper surpris, dit « Mais pourquoi est-ce que tu m'abordes comme ça ?» Et il commence à discuter avec lui, et cet homme de main, il dit « Ça fait 10 ans que tous les soirs je pense à toi et j'arrive pas à dormir à cause du mal que j'ai fait. » Et Moïse, il dit « Dès le premier jour, je t'avais pardonné. » 3 semaines plus tard, cet homme, il donne sa vie à Jésus. Et aujourd'hui, il est pasteur. Moi, ça me touche trop, ce genre d'histoire. Je ne peux pas rester indifférent. Et c'est la fondation de la parole même de Dieu qui a permis ça. C'est Dieu incarné, mis en pratique, qui, lorsque la tempête arrive, les fondations, elles tiennent bon, et non seulement elles permettent à la maison de tenir, mais elles permettent de bénir d'autres personnes. Et c'est ça dont Jésus parle, quand il parle de fondation. Et aujourd'hui, peut-être t'entends cette histoire et tu te dis, mais pff, on ne peut pas vraiment parler de persécution des chrétiens chez nous. T'sais. C'est difficile de dire ça en Suisse. Mais je discutais avec un autre ami il y a plusieurs années déjà, je ne sais plus d'où il venait, et disait, ouais, il y a 2 menaces pour notre foi. La première, c'est la persécution, et la deuxième, c'est le confort. Et aujourd'hui, dans le pays, dans un des pays les plus riches du monde, on est tellement confortable. Et j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu de s'appuyer vraiment sur la parole de Dieu. Et dès qu'il y a une tempête qui arrive, on ne sait plus vraiment quoi faire. Il n'y a pas de mal à ça. Que les tempêtes arrivent, c'est prévu. Dieu permet ça, mais c'est juste pour qu'on puisse travailler notre caractère, creuser les fondations. Et je crois vraiment que la parole de Dieu est une fondation pour ça. Et ce confort, peut-être que c'est simplement ton travail, peut-être que tu t'identifies beaucoup à ce que tu fais, ou peut-être que c'est le quotidien que tu as et dès qu'il y a un enfant qui arrive, ça chamboule tout. Je ne suis pas encore arrivé à ce stade-là dans ma vie, mais quand je vois mes amis autour de moi, je suis là, waouh, le confort va changer. Ou peut-être que c'est une personne que tu as comme exemple qui, du jour au lendemain, te déçoit. Peut-être c'est un mentor où tu apprends qu'en fait, il a trompé sa femme. Et ça, ça fait mal. Et ça, ça peut être une tempête. Ou peut-être que tu as reçu un énorme héritage. Et qu'est-ce que tu fais avec cet argent ? Ou peut-être que simplement tu as envie de toujours te sentir bien, tu fais beaucoup de méditation pour ça, et c'est bien, je pense qu'il y a des bonnes choses là-dedans, mais du coup, qu'est-ce que tu fais quand l'anxiété arrive? Quand il y a toutes ces questions-là, je crois que c'est important qu'on ait des repères, pas qu'on déconstruise tout chaque chose pour finalement avoir plein de pièces détachées qui ne tiennent plus du tout ensemble. Et du coup, moi j'aurais envie de te poser la question, et je vais laisser un petit moment pour réfléchir à ça. Et cette question, c'est simplement, quelle a été la dernière fois que j'ai eu une tempête dans ma vie? Quel a été mon repère, ma fondation? Est-ce que c'était peut-être ma famille, mes amis? Peut-être c'est une bonne chose. Mais est-ce que mon premier réflexe, c'était de retourner vers Dieu, vers sa parole? Et je te laisse réfléchir à ça. Quelle a été la dernière fois que j'ai eu un gros défi dans ma vie, une tempête? Et juste réfléchir sans culpabilité, sans rien, juste te dire, OK, où est-ce que j'ai été chercher un repère du réconfort? Je laisse 30 secondes juste pour réfléchir un peu à ça. Ok. Si ces 30 secondes t'ont paru longues, c'est que t'as pas pris de notes. Il n'y a pas de mal. T'as encore deux chances. Ok, humour, prenez pas ça personnellement, tranquille. Hein. On est entre nous. Ok, deuxième point, la Bible comme guide. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, on a besoin de guide aussi, de notre vie. Des fois, on entend comme guide, ouais, non, mais tu sais, tant que tu es heureux, ça va. L'important, c'est que tu sois en paix avec ça. Ou bien, ouais, mais si tu te fais de l'argent dans cette affaire, il n'y a pas besoin de comprendre tous les tenants aboutissants. Tant que ça te rapporte, pourquoi tu poses des questions? C'est comme si on utilisait n'importe quel conseil pour justifier nos actions. Et moi, ça me parle quand, dans le passage qu'on a lu ensemble avant, ça dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Des fois, c'est fou, mais j'ai l'impression qu'il parle directement de maintenant. Il parle du futur, mais je crois que quand il écrit ça, c'est un futur direct. C'est quand Timothée aura fini de la lettre, de lire la lettre de Paul directement, il y aura ça qui arrivera. Et ça ne veut pas forcément dire la fin des temps ou quoi. Ça, même Jésus ne le sait pas quand ça sera. Mais c'est maintenant où on est qu'on a besoin de ces repères. Et des fois, on se justifie nos actions par des fables. Et on a besoin de guides. Et tu sais, des fois, c'est comme si on avait tellement envie que Dieu nous guide hyper directement dans ce qu'on fait. Il y a quelques mois, j'étais avec des amis, je raconte cette petite histoire pour parler de guide direct de Dieu. Il y a quelques mois, j'étais avec des amis à une ferme, et c'était des potes des études, et on était quelques jours là-bas, et puis on était tout le temps à l'extérieur, la fin de l'été, ensoleillé, super. Un soir, on était à l'intérieur. Exceptionnellement, on discutait entre nous, puis d'un coup, on entend un bruit étrange à l'extérieur. Et là, on sort. Je suis le premier à sortir et je vois qu'il y a un arbre qui s'est écroulé exactement à l'endroit où on était d'habitude. J'ai dit, what? Tellement improbable. En plus, il y avait du vent tous les jours d'avant et ce soir-là, il n'y avait pas de vent. Et cet arbre s'était écroulé sur notre place habituelle. Et on était tous à l'intérieur, sauf un. Il était à l'extérieur, puis il fait... Les gars, vous vous rendez pas compte de ce qui est arrivé. Aujourd'hui, j'étais chez le dentiste. J'ai discuté avec une femme. On a discuté 10 minutes. Elle m'a donné un livre. Elle a dit qu'elle était chrétienne, etc. J'ai été faire ma consultation. Je suis sorti du dentiste. Et elle avait payé ma facture de dentiste. C'est cher quand même. Et le soir, j'étais là. Et elle m'envoie un message. Elle me dit, je prie pour toi, Jésus t'aime et te protège. Et 2 minutes après, l'arbre s'est écroulé devant ses pieds. Je ne sais pas vous, mais là, c'est difficile de dire que ce n'est plus Dieu. Et vraiment, tu sais, des fois, moi, je suis un peu en hésitation. Genre, est-ce que je parle de Dieu à mes potes ou pas? Ben là, j'avais plus le choix. Et c'est bon, et je crois que Dieu agit vraiment comme ça. Vraiment, je crois que Dieu agit de surnaturel, de manière totalement surnaturelle. Mais on ne peut pas compter que sur ça pour avancer. Et je crois que Dieu, il se montre à nous, mais lui, il a aussi envie que nous, on se montre à lui. Et que nous, on aille dans sa parole, qu'il travaille notre caractère pour aller vers lui. Il veut juste travailler nos cœurs. Et tu sais, des fois, moi, je me reprends un peu moi-même dans mes prières, j'ai l'impression de me lamenter un peu. Non, mais tu ne trouves pas que ce n'est pas juste quand même la situation dans laquelle je suis? Est-ce que tu pourrais arranger ça? Je n'ai pas envie d'aller au travail demain. Est-ce que tu pourrais faire en sorte qu'il y ait une pandémie? Non, prie pas ça. Prie pas ça. Non, mais tu sais, des fois, tu as juste l'impression qu'on te prie pour notre confort. Mais je crois vraiment que la Bible, c'est un vecteur essentiel pour apprendre à connaître Dieu. La Bible en elle-même, elle sert à rien si tu l'utilises juste pour ta propre connaissance. Mais si c'est pour être en relation avec Dieu, alors là, ça fait tout son sens. Et je crois vraiment qu'on a tellement besoin de retourner vers elle. Peut-être que tu as un copain ou une copine et tu te poses des questions de comment... Qu'est-ce que Dieu penserait de cette relation? Alors peut-être avant d'aller directement en parler à Yves, pour demander son avis, je te conseillerais de lire peut-être 1 Corinthiens 13, qui parle de l'amour. Ou peut-être que tu te poses des questions sur le sens de ton travail. Peut-être que tu as l'impression que tu ne fais pas grand-chose. Ben, je te conseillerais de lire une fois l'Ecclésiaste. Mais pas que. Ça t'autorise de déprimer un peu, mais aussi de lire d'autres éléments dans la Bible. Non, mais vraiment, je crois que c'est essentiel. Même l'Ecclésiaste, on l'oublie. Peut-être que tu as juste envie de louer. Il y a plusieurs psaumes qui sont bons pour ça et qui mettent les mots sur qui est Dieu. Peut-être que tu te poses des questions sur comment agir avec ton voisin. Ben, tu sais quoi, tant que tu y es, lis tout un évangile. Marc, il est super concret. Peut-être que tu as juste besoin de revoir des bases dans ta vie de foi. À ce moment-là, je te conseille vraiment de lire Jacques. C'est très condensé et je te promets que tu pourras avoir tout ce qu'il faut avec ça. Et peut-être que tu as l'impression d'être un peu dans un désert dans ta vie en ce moment. Je te conseille juste de lire Matthieu 4 et Luc 4, qui parlent de Jésus dans le désert. Et je crois que c'est des guides tellement importants, non seulement pour nous, dans notre vie, concrètement, mais aussi pour comprendre qui est Dieu. Tu sais, des fois, on imagine un guide qui fera une carte comme ça, parfaite, qui te dira d'aller au point A au point B, et puis que la Bible, c'est un peu comme les pièces d'un puzzle. Tu te dis, non, mais si je lis toute la Genèse, ça me donnera des pièces que je pourrais faire et arranger, et puis je comprendrai un peu mieux qui est Dieu. Mais cette logique du puzzle, elle ne marche pas du tout avec la Bible. Je suis désolé de te décevoir. C'est un livre qui reste mystérieux. Vraiment, je crois, à chaque fois que tu rajoutes une pièce, tu te rends compte qu'en fait, il y a 2 autres pièces qui manquent. Mais par contre, ça te permet de plus entrer en relation avec Dieu. Et je crois que c'est quelque chose qui se médite. Tu prends le temps. Franchement, prends le temps de la lire. Ça ne sert à rien de te stresser. Et du coup, moi, je te poserai la question de juste savoir qu'est-ce qui te laisse, de quoi, par quoi est-ce que tu te laisses influencer dans ta vie quand tu prends une décision. Est-ce que c'est tes émotions, ou peut-être que tu comptes tout sur ton intelligence, peut-être que c'est tes relations. Je pense qu'il y a des bonnes choses, vraiment par rapport à ça, mais est-ce que ces choses sont aussi soumises à la parole de Dieu? Et moi, je te poserai vraiment la question. Et on va de nouveau prendre un petit temps pour réfléchir à ça. Je fais aussi ce temps d'introspection avec vous. Par quoi est-ce que je me laisse influencer dans ma vie? All right. Troisième, dernier point. La Bible pour équilibrer. Et je crois que c'est vraiment important de penser, de aussi peut-être s'introspecter un peu soi-même. Je ne sais même pas si ce verbe existe, mais réfléchir à est-ce que la Bible nous équilibre. Parce que des fois, j'ai l'impression de voir un peu les deux extrêmes. Soit de rencontrer des gens qui ont été tellement matraqués par l'importance de lire la Bible qu'ils se disent « Non, mais ça me saoule, j'ai plus envie d'avoir affaire à ça. » Ou bien au contraire, qu'ils se disent « Ah, oh, mais tu sais, genre, je vis tellement de choses incroyables avec Dieu, j'ai pas besoin de lire sa parole. » Et tu sais, il y a un peu les deux extrêmes, puis t'es là « En fait, je suis pas sûr que l'un et l'autre soient justes, tu vois. » Je crois que la Bible, elle est vraiment là pour nous équilibrer de notre relation avec Dieu. Et tu sais, c'est comme dans une relation avec un être humain normal. Ok, je sais pas si vous connaissez Manon, la femme la plus extraordinaire du monde. Je le dis en toute objectivité, vu que c'est ma femme. Eh bien, avec elle, si notre relation, ça se résumait à juste qu'on se serve mutuellement parce que c'est pratique, que des fois, ben, je fais la lessive, des fois, je cuisine, des fois, je vais au marché, je rencontre les mères de famille du quartier, c'est marrant. Je suis un peu le seul gars là au milieu, tu sais. Ben, si notre relation, elle se résumait juste à ça, ça irait pas. Et si notre relation, c'était juste la sexualité, juste des temps intimes, et que tout le reste, ben, j'ai pas envie, parce qu'en fait, c'est trop compliqué, j'ai pas envie de parler de mes émotions, j'ai pas envie de l'aider, que c'était un peu juste ma sex friend, eh ben, à ce moment-là, on construirait pas grand-chose. Tout comme si notre relation, c'était juste d'échanger, et puis peut-être on passe des bons moments, eh ben, si c'était juste ça, ça serait un peu sec aussi. Et ça ne veut pas dire que ces choses individuellement sont mauvaises ou bonnes. C'est juste qu'on a besoin d'équilibrer, que toutes ensemble, elles forment notre relation, elles équilibrent notre relation. Et je crois qu'avec Dieu, on a aussi besoin de cet équilibre. On a aussi besoin d'utiliser la Bible comme élément d'équilibre dans notre foi, dans notre relation, dans notre pratique avec Dieu. Et pour ça, j'ai une illustration qui m'avait pas mal parlé. C'est Alice Potter. Je ne sais pas si vous connaissez un homme qui habite en Suisse, d'ailleurs, qui est pasteur dans une église juste à côté, là. Et ancien moine bouddhiste zen pendant 10 ans, il s'est converti au christianisme. Il a été un disciple pendant longtemps de Francis Schaeffer. Pour ceux qui connaissent, c'est déjà un certain temps, mais qui a fondé l'abri en dessus de Guillon. Bref, quelqu'un d'hyper intéressant. Et il illustrait l'équilibre dans notre foi de cette manière. Il insistait sur le mot brie, B-R-I-E, comme le fromage. Oder Bier, wenn du Deutsch bist. Si le germanique te parle plus, c'est la bière, peut-être. Non, mais B-R-I-E, c'est comme les quatre angles d'un carré. Et si tu veux, ce carré, ça représente ta foi. Et imagine, tu mets ton doigt au milieu du carré, et du coup, si un des angles il penche un peu trop, ben, ça déséquilibre l'ensemble. Et l'important, c'est que ce carré soit en équilibre. Et ces quatre lettres, ça représente quatre éléments fondamentaux de notre foi. Le premier, c'est la Bible, le B. On en a déjà parlé. Le deuxième, c'est R. C'est, si on veut, la raison ou la réflexion. Comment est-ce que tu réfléchis par rapport à la Bible, par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que l'Église te dit, par rapport aux relations que tu as? Peut-être c'est la raison, peut-être que tu as besoin de prouver chaque chose. Mais ce n'est pas tout. Il y a la Bible, il y a la raison, il y a aussi l'institution, si on veut le « i ». Et l'institution, peut-être, c'est la liturgie ou la communauté dans laquelle tu es, ou les traditions sur lesquelles tu t'es peut-être construit une communauté. Et le quatrième, le « e », c'est l'expérience. Et ce que tu vis au quotidien, peut-être comment tu mets tes éléments en pratique, peut-être comment tu vis ce « e », cette expérience, cette parole de Dieu dans ta vie. Et ces quatre éléments, ils ont besoin d'être en équilibre. Tu ne peux pas juste baser ta foi sur la réflexion. Sinon, elle est sèche, sinon elle se déséquilibre totalement. Tout comme tu ne peux pas baser ta foi uniquement sur la lecture de la Bible. Tu as aussi besoin du « i », de l'institution, des relations. Tu as aussi besoin de vivre, d'expérimenter ce que tu lis. Et je crois que vraiment ce « B-R-I-E », moi, c'est une image qui me parle beaucoup. Et du coup, je vous conseillerais de juste écrire ces quatre mots, ces quatre lettres dans vos notes. Et je vais le faire avec vous, de se dire, OK, pour chacun, vous attribuez un chiffre entre 1 et 10 pour vous dire, OK, ben peut-être le 8-9, c'est où je suis le meilleur ou la meilleure. Et peut-être le 1-2-3, c'est où je suis le moins bon et où j'ai encore peut-être des progrès à faire. On va prendre juste un petit temps pour qu'on fasse ça chacun individuellement. B-R-I-E. Bible, réflexion, institution et expérience. OK. Pour finir, peut-être que tu te dis, mais c'est quoi, je ne comprends pas. Cette Bible, c'est autant une fondation, mais qui ne nous empêche pas d'avoir des défis. C'est autant un guide, mais on n'arrivera jamais à avoir une image complète. C'est autant un équilibre, mais il est tout le temps changé selon notre vécu. Et peut-être que tout ça, ça te paraît un peu abstrait. Mais je crois que si on met en pratique ce que la Bible dit, ça paraît tout de suite beaucoup moins abstrait et beaucoup plus concret. Et tu sais, des fois tu te dis, mais si seulement je comprenais vraiment bien le livre d'Ésaïe, à ce moment-là, je pourrais être chrétien. C'est compliqué le livre d'Ésaïe, je ne te conseille pas de commencer avec ça. En plus, c'est long. Mais lis vraiment ce que tu lis. Tu sais, j'ai un ami, ça fait 2 mois que tous les jours, il lit 1 Corinthiens 13. Tous les jours. Et il y a plein d'autres livres qu'il ne connaît pas. On a parlé de Gédéon, il ne connaît pas. On a parlé de plein d'histoires, il ne connaît pas. Mais 1 Corinthiens 13, il le met en pratique tous les jours. Et je vous promets que ça porte des fruits incroyables et que ça fait la différence. Et je crois vraiment, si on arrive à mettre ces éléments en pratique, ça fera toute la différence. Et du coup, je te donne juste quelques clés super concrètes pour que peut-être à partir de ce soir, demain, tu puisses te dire « Ah ben, je vais commencer ». Du coup, si tu n'es pas habitué, commence par un petit peu, même un verset par jour ou un chapitre. Mais tu sais quoi ? Prends le temps de lire. Lis-le vraiment, laisse-le s'imprégner dans tes pensées, dans ton cœur. Deuxième chose, utilise des guides. Si tu ne comprends pas, parce que justement ça a été écrit par 40 personnes sur 1500 ans en 3 langues et pas le vaudois, à ce moment-là, prends juste des aides qui te permettent de comprendre. Ou juste demande à des amis, à des vis-à-vis. Parle-en autour de toi. Troisième clé, fais-le juste dans le silence. Le silence autour de toi, mais aussi à l'intérieur de toi. Je crois vraiment que pour plein de gens que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant, le matin, c'est le meilleur moment. Peut-être pour d'autres, c'est le soir, mais le matin, la première chose que je fais, c'est me lever, m'asseoir dans mon fauteuil et ouvrir ma Bible avant d'aller sur Internet, avant d'ouvrir mon iPhone ou quoi que ce soit. Et je crois aussi, prie pendant que tu fais ça. Demande à Dieu de t'inspirer. Et je suis persuadé qu'il te montrera des choses. Peut-être que ça te fait peur, mais commence par un petit peu. Vraiment, je suis sûr que ça ira. Laisse-toi imprégner par la nature de Dieu. Je crois vraiment que aujourd'hui, on voit un petit peu des parties de Dieu, mais on a de la peine à comprendre vraiment qui il est, c'est normal. Mais par contre, sa nature, elle est importante qu'elle soit vécue, vraiment, à travers sa parole. Ok. Je vais inviter l'équipe Louange à remonter, j'ai gentiment fini. Et je vais juste prier pour que chacun, on puisse de nouveau encore plus se rapprocher de Dieu. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Tu as été présent physiquement il y a 2000 ans sur cette terre, mais ta nature, ta parole est encore là devant nous. Seigneur, merci pour l'accès tellement facile qu'on a à ta parole. Et je te prie vraiment que tu puisses encore plus développer une passion pour toi, que ta parole puisse être un catalyseur, je crois vraiment, pour se rapprocher de toi. Seigneur, des fois, elle nous fait peur, on ne comprend pas. Ou l'image qu'on a de toi, on ne la comprend pas non plus. Mais Seigneur, je te prie vraiment que ta passion, ta paix, ton amour pour toi, pour les autres et nous-mêmes puissent encore grandir. Seigneur, je te prie de bénir chacun, chacune, simplement dans les moments d'intimité qu'on aura avec toi, qu'on puisse toujours revenir à ce support qu'est la Bible. Amen.
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.